Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Bien, comment trouver un bon sujet de mémoire? On en parle aujourd'hui avec le professeur Marcus Bindongwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous arrivez au terminal du cycle des gradués ou des licences, quelle que soit votre spécialité, vous êtes appelé à rédiger un travail de fin des cycles ou un mémoire et de le soutenir après devant un jury. Et après, vous obtiendrez les titres des licenciés ou des gradués ou des licenciés. Alors, vous savez, les temps passent vite, hein, et c'est maintenant qu'il faut choisir, hein, trouver un bon sujet. Souvent, les étudiants se retrouvent devant ces dilemmes ou comment où trouver un bon sujet. Parfois, ils sont à court d'inspiration. Eh bien, un autre invité nous donnera quelques astuces, des infos pratiques pour arriver à trouver un bon sujet de mémoire. Professeur Marcus, dites-nous, par où faut-il commencer pour arriver à trouver un très bon sujet?
Bon, que je veux être le plus pratique possible pour ne pas être simplement un académicien. J'aimerais fonctionner, dire la manière dont je fonctionne avec les étudiants. Je crois que chaque étudiant devrait commencer par un petit retour en arrière pour identifier dans sa formation théorique et pratique les aspects qui ont posé problème. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait des sciences pédagogiques. J'ai appris en didactique, par exemple, qu'on enseigne en commençant par telle étape, passer par telle autre étape, etc. Je vais en stage dans une école. Et je me rends compte que la procédure de l'enseignement de mon encadreur de stage, c'est-à-dire du titulaire de la classe, n'est pas la même procédure. Ça, c'est des problèmes. Ça peut surprendre. Et si, par exemple, un tel problème, d'autres qui sont allés dans les écoles ont eu la même difficulté, un retard de programme, c'est le programme de telle année, et pourtant les écoles continuent toujours à utiliser les programmes des années bien antérieures, etc. C'est-à-dire que c'est parfois des expériences comme ça qui peuvent vous amener, vous orienter vers le choix d'un bon sujet de mémoire ou de TFC. Donc, regardez les principes que vous avez étudiés, essayez de comparer ce que vous avez voyé, ce que vous constatez sur terrain, ou est-ce que il y a des choses qui vous dérangent? Bon, il y a beaucoup d'anomalies, bien sûr, mais ce ne sont pas toutes les anomalies qui vous dérangent. Il y en a quelques-unes qui vous dérangent. Alors, commencez par recenser tous ces problèmes-là, spécialement dans le secteur où vous vous spécialisez. Regardez les branches des options. Prenez ces éléments-là et tous ces problèmes. Commencez par un recensement de tous ces problèmes. Alors ça, ce sont déjà des axes qui peuvent vous aider à choisir un sujet. Donc le problème est assez important. Il faut identifier les problèmes. Alors quand vous avez fait ce recensement, alors puisque vous ne pouvez pas aborder tous les problèmes à la fois, il faudrait vous décider lequel vous allez étudier pour votre mémoire ou votre TFC en ce moment-là. Et pour choisir, bon, vous tenez compte de problèmes que vous aimez ou vous avez vous trouvez à l'aise. Tenez compte de problèmes où vous avez beaucoup plus de facilité d'avoir des informations.
Des problèmes qui se posent dans le secteur d'études ou dans la vie, dans la société en général.
Il faut partir de là, il faut prendre les deux. et les secteurs d'études et la vie pratique. Mais de toutes les façons, puisqu'il s'agit d'un travail scientifique, ben c'est beaucoup plus des éléments du côté scientifique qui vont vous intéresser. Mais ce sont justement les principes que vous apprenez du côté scientifique qui vont vous aider à apprécier ce qui se passe dans la société. Donc, vous tenez compte aussi de votre de vos projets d'avenir. Hein, pourquoi pas? Parce que on étudie pour la vie. Alors, parmi ces problèmes-là, vous allez voir en tenant compte de tous ces critères où est-ce que vous êtes aussi beaucoup plus outillé, les matières que vous comprenez beaucoup plus facilement, où vous n'avez pas trop de difficultés à étudier. Mmh. Alors, en tenant compte de tous ces éléments, vous allez choisir quel est le problème identifié, parmi les problèmes identifiés, lequel peut vous aider à vous débrouiller mieux dans ce que vous allez faire comme étude. Alors, quand vous savez que je préfère travailler pour le moment sur tel, étudier tel problème, alors il faudrait faire l'état de la recherche. Donc, relire la documentation antérieure. Ici, comme dans beaucoup de nos institutions, les bibliothèques souffrent. On va souvent dans les mémoires, les TFC de ceux qui ont travaillé avant pour voir dans quelle direction tout le monde est allé. Mmh. Les uns les autres sont allés. Et on regarde aussi à la bibliothèque ce qui vient parfois de l'étranger, dans quel sens on est allé. On va sur l'Internet, on fait cet état des lieux-là pour savoir ceux qui ont abordé pratiquement le même problème, ils sont allés dans quel sens? Parce que il faudrait, dans un travail scientifique comme l'objectif, et les mémoires, les thèses, ce sont des travaux scientifiques, comme l'objectif, c'est de générer une nouvelle connaissance quand même, vous ne devez pas répéter platement ce que les prédécesseurs ont fait.
Oui.
Alors, c'est comme ça qu'il faut savoir ce qui a été déjà fait pour être capable de se démarquer. Mmh. Alors, pour se démarquer, il faut voir choisir, préférer aller vers les directions qui n'ont pas été exploitées, pas suffisamment exploitées, ou bien des directions où vous sentez que ça a été mal abordé. D'après ce que vous avez acquis comme expérience, vous avez réalisé comme lecture, etc., vous vous rendez compte que ce sujet a été mal abordé. Je crois que ça ne devrait pas l'être, ça ne devait pas être de cette façon, alors je reprends et donc aller de ce côté-là. Là
où par exemple, quel était le sujet de votre mémoire?
Mon mémoire
de licence.
De licence, ah oui. En licence, j'ai travaillé sur les enjeux pratiques de la relativité d'Albert Einstein. J'ai travaillé sur la théorie de la relativité. Mais ces enjeux pratiques, donc la relation entre la théorie de la relativité, parce que je trouvais que dans la théorie de la relativité, il y avait une mentalité qui prédisposait déjà Albert Einstein à aller du côté politique, quoi, du côté sociopolitique. Donc c'est sa pensée, les interventions d'Albert Einstein du côté de la paix, du côté de l'organisation sociopolitique du monde, ont eu quelque chose à voir avec son génie dans la théorie de la relativité. Voilà, c'est ça, c'était ça mon sujet.
Donc c'est comment avez-vous fait ce choix, le choix de ce sujet? Vous avez lu beaucoup Einstein?
Oui. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis rendu compte que il avait deux côtés. Il y avait un côté le côté scientifique, du physicien, de la théorie de la relativité. Et de l'autre côté, il y avait le côté d'un homme qui, puisqu'il a été un savant, a pu prendre position par rapport à certaines questions, notamment la question de la guerre, de la paix, la question du militarisme, etc.
Donc, d'accord. Mais bon nombre d'étudiants, aujourd'hui, ils cherchent d'abord un directeur, et c'est en discutant avec les directeurs, il attend beaucoup plus les orientations du directeur ou les propositions que va lui faire le directeur de son mémoire.
Le travail, c'est le travail de l'étudiant. En principe, c'est l'étudiant qui choisit. Un directeur peut également donner des orientations à des étudiants et qui peuvent bien entrer dans cet axe de recherche et continuer de travailler avec le directeur. Mais la responsabilité du choix du sujet revient et incombe à la personne qui travaille. C'est, l'étudiant doit être capable de choisir son sujet. C'est, il est universitaire, hein, il ne doit pas continuer à faire des choses comme si c'était un enfant. On n'est pas à l'école primaire ni à l'école secondaire, on est à l'université. Au moment dont on a affaire à des chercheurs, donc des gens qui ont un jour la prétention de dépasser le professeur. Parce que ce que le professeur connaît, il va.
Généralement, les étudiants n'ont pas tellement confiance en eux-mêmes. Ils pensent que tout ce que le professeur propose, c'est ça qui est meilleur.
Non, le professeur a son axe de recherche. Ce n'est pas un savant, il ne connaît pas tout. S'il est savant, il est savant dans le domaine qu'il a étudié. Vous, considérant ce que le professeur a étudié, vous pouvez aller au-delà. Il peut avoir laissé une brèche, entamé une recherche et arrêté quelque part, et vous pouvez aller au-delà de lui. Donc les étudiants doivent avoir quand même cette prétention-là d'aller au-delà du professeur, parce que s'ils attendent tout des professeurs, c'est qu'ils n'ont pas scientifiquement mûri. Quelqu'un qui a scientifiquement mûri doit être capable de conduire une recherche du début jusqu'à la fin. Seulement qu'on a le problème que l'enseignement de la méthodologie de la recherche dans nos institutions académiques de la RDC souffre énormément. Parce qu'il n'y a pas beaucoup trop de professeurs qui sont intéressés de ce côté-là. Parce que le travail est aussi très exigeant, parce que il faut corriger un très grand nombre de travaux, et ce n'est pas toujours assez facile, hein. Surtout que les effectifs des auditoires sont bombés. Oui. Alors, on n'a pas le temps
de s'occuper de chaque étudiant individuellement. Comment trouver un bon sujet de mémoire? Professeur Marcus Bindongwa, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale, est l'invité d'Okapi Service. Pour participer, appelez au 081 890 63 94.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comment trouver un bon sujet de mémoire? Albert Monanga, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'aimerais poser deux questions à notre invité. La première, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire si il y a un peu une contradiction entre l'étudiant et le directeur ou le coordinateur dans le choix du sujet. Parce qu'après avoir étudié des cours d'initiation à la recherche, je pense que l'étudiant a déjà quand même mûri les idées pour qu'il fasse un peu le choix du sujet, donc avec toute aspiration autre. Donc, je pense que comment l'invité peut réagir à ces
oui.
à cette
contradiction à quel niveau? Pourquoi
il, bon, donc pour opérer le choix, donc pour opérer donc et donc le choix du sujet en fait. Et donc le directeur propose et l'étudiant aussi propose. Je pense qu'il y a un peu le changement de sujet, donc on n'arrive pas vraiment à s'entendre ou bien à se comprendre là-dessus.
C'est votre propre cas?
Mais c'est le cas que nous sommes en train de vivre dans certaines circonstances.
Alors Albert, vous voulez travailler sur quel thème et qu'est-ce que votre directeur vous propose?
En fait, moi j'ai déjà terminé, j'avais travaillé sur la détermination de la courbe et du second degré. Donc j'avais déjà terminé, je pense que ce n'est pas mon cas, mais j'avais un peu travaillé, j'avais bien travaillé, je pense que on s'entendait avec le directeur et le co-directeur, ça ne posait pas du tout problème. Mais je pose ce cas parce que j'ai vu. En fait, c'est un cas aussi que j'ai vécu où il y a eu un peu de changement de sujet. Bon, peut-être au niveau de la compréhension d'un étudiant où, voilà, on ne s'entendait pas du tout bien.
Merci.
C'est ça ma préoccupation.
D'accord. Patrick, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. Je réponds au nom de M. Patrick Betou. Je suis étudiant en deuxième licence psychosociale à l'Université de Kinshasa. Et les thèmes, j'ai trouvé vraiment c'est intéressant parce que ça concerne beaucoup plus les étudiants finalistes. Alors, de mon côté, j'avais 6 préoccupations à poser à l'invité. La première, wow, c'est celle de savoir qu'est-ce que l'invité peut dire au directeur qui impose les sujets aux étudiants. La deuxième question, j'aimerais savoir, un mémoire doit avoir au moins combien de pages? Parce qu'il y a une contradiction concernant le nombre de pages. Et j'aimerais avoir une bonne précision, un mémoire doit avoir au moins combien de pages? La troisième question est celle de savoir, est-ce qu'il est-il important d'avoir un encadreur lors de la rédaction des mémoires? La quatrième question est de savoir pourquoi certains professeurs ne passent pas aux étudiants. Vous allez voir si un étudiant a rédigé une introduction, en l'amenant auprès de son directeur, le directeur lui demande, mais si tu as copié ça où? Là, c'est la quatrième question. La cinquième est celle de savoir est-ce qu'on peut faire les mémoires sans pour autant mettre les études antérieures, parce que il y a certains directeurs qui sont exigeants, ils demandent aux étudiants de mettre les études antérieures. Est-ce que est-il important? Merci beaucoup, c'est Patrick Betou depuis l'Université de Kinshasa.
Bien, professeur Marcus, vous avez la parole.
Oui. Bon, merci pour les questions. Bon, je pense qu'il y a des préoccupations qui se recoupent, qui se retrouvent chez les deux intervenants.
Oui.
Bon, la polémique qu'il y a entre, de temps en temps entre les étudiants et les directeurs au sujet de titres, mais ce n'est pas seulement entre les deux, mais parfois c'est entre la communauté que constitue l'étudiant et les directeurs et les départements qui doit approuver tel ou tel sujet. C'est un grand débat qu'on rencontre. Bon, je conseillerais aux étudiants, surtout aux débutants, d'avoir un peu plus d'humilité, hein. Parce que le prof, il connaît ces choses un peu mieux que vous. Vous voyez peut-être pas très loin, lui, il voit beaucoup plus loin. Essayez de faire confiance pour aller de l'avant. Mais si vraiment, dans l'orientation que le professeur vous donne, vous ne vous retrouvez pas, vous allez lui expliquer. Et vous êtes en droit de changer, de chercher un directeur qui va assumer l'orientation que vous voulez prendre. Voilà.
Donc, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets-là.
Voilà. Donc, je crois qu'il y a moyen de trouver un consensus de cette façon-là. Donc, mais les étudiants ont parfois raison de constater qu'il y a des directeurs qui imposent tout, qui veulent faire un autre mémoire au travail de cycle eux-mêmes, leur orientation, mais ils veulent
l'imposer
voir ça chez l'étudiant. Donc ça, c'est détruire quelqu'un. L'étudiant a une certaine personnalité scientifique qui doit, sinon les professeurs devraient l'aider à consolider sa personnalité scientifique en essayant d'identifier quelles sont les aspirations, les compétences, etc. de l'étudiant, et comment moi, comme encadreur, je devrais, et comme accompagnateur en fait, hein, je devrais l'aider à rejoindre le cap qu'il veut rejoindre, si ce cap-là est bon. Mais s'imposer, faire des étudiants une copie de nous-mêmes, ça fait un peu problème. Donc on devrait s'entendre de cette façon-là. Alors, combien de pages? Ben, écoutez, suivez ce que vos départements et vos facultés ou sinon vos universités, instituts supérieurs demandent. En tout cas, les institutions académiques qui sont organisées imposent parfois le nombre de pages indique parfois le format, l'interligne, etc. Il y a des normes typographiques que vous êtes censé connaître.
Il faut avoir lu au moins autant de livres dans votre bibliographie.
Respecter ces normes-là. Il n'y a pas un système général pour tout le monde. Ça dépend de la politique de chaque institution. Et nécessité de l'encadreur, oui, pour le cas d'un travail scientifique, oui. Il faut un directeur qui puisse vous accompagner, parce que c'est un travail que vous faites dont vous n'avez pas toutes les compétences. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous orienter et qui, après, accepte, après vous avoir corrigé dans telle orientation à prise, et accepte ce travail comme étant un travail valable pour le niveau ou le problème que vous voulez atteindre et les diplômes que vous êtes en train de viser. Et c'est cette personne-là qui vient présenter cela au niveau de l'institution académique. C'est comme ça qu'on attend la signature, l'autorisation du dépôt de mémoire ou de TFC, du directeur de mémoire ou de TFC, avant que on puisse accepter le sujet. Alors, les études antérieures, faudrait-il citer les études antérieures? Bon, ça dépend des domaines aussi. Il y a des domaines où...
Mais dans la bibliographie, on peut reprendre les livres consultés, tous les livres que vous avez consultés pour rédiger votre mémoire.
On doit les
signaler.
En principe, la bibliographie, ce n'est pas un remplissage de tous les livres qu'on a touchés ou on a lu une page ou quoi. La bibliographie, c'est pour les livres et les documents que vous avez cités. Principalement que vous avez cité, parce que leur présence est là et ça sert, parce que au niveau des notes en bas des pages, les références ne sont pas complètes. C'est au niveau de la bibliographie que vous avez les références complètes. Mais si vous faites une bibliographie qui fait un fourre-tout, vous allez avoir une très longue liste, mais indiquez-le, dites-le que vous avez tout mis. C'est comme ça que vous avez une très longue liste. Mais les études antérieures, même si vous ne les mettez pas dans le texte, au moins au niveau de l'état de la recherche, sachez que vous ne pouvez pas vous engager sur un chemin sans savoir ce qui a été déjà fait. Sinon, vous allez simplement vous rendre compte que vous êtes en train de répéter exactement ce qui a été déjà fait, parfois mieux fait. Et alors, ça, ce n'est pas intéressant. Vous n'apportez rien. C'est un travail qui est inutile. Normalement, c'est un travail qu'on ne devait pas accepter, qu'on devrait rejeter.
Alors, on retient que pour trouver un bon sujet de mémoire, il faut recenser les problèmes qui se posent dans votre domaine d'études ou dans la société. Et puis choisir un dans lequel vous sentez à l'aise, un sujet avec lequel vous êtes à l'aise. Alors, on va accueillir deux autres auditeurs, Jean-Claude depuis Isiro et Michel de Kinshasa. Jean-Claude, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je vous souhaite bonne année.
Merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème?
Voilà, merci pour les sujets. Je n'ai pas de questions, j'ai plutôt quelques recommandations que je peux donner à l'autre, à l'invité.
Rapidement.
Oui. Alors, monsieur le professeur, je voudrais vous donner quelques recommandations ici. Si, pour ne pas éviter ce qu'on appelle plagiat, lorsqu'il y a déjà le choix du sujet et que l'étudiant a amené les sujets chez l'encadré.
Oui,
avant qu'on puisse commencer à travailler, il faudra qu'on puisse voir et si on n'avait pas déjà traité ce sujet-là pour aider l'étudiant de ne pas gaspiller son temps inutilement sur le sujet qu'on avait déjà abordé. Voilà un peu quelques recommandations ici.
Merci. Michel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, studio, meilleurs vœux.
Merci. Quelle est votre question?
En fait, je n'ai pas une question. Je voulais réagir. Je ne sais pas comment est-ce que l'invité a réagi par rapport à une des questions d'un prédécesseur là. Par rapport au sujet proposé par les directeurs. Je ne sais pas comment il a répondu, parce que j'étais un peu absent de mon poste récepteur. Mais je pense que le directeur peut donner à son étudiant des lignes de conduite. Tout dépend, bien sûr, de la manière dont les thèmes de recherche ont été présentés par l'étudiant lui-même. Le directeur, en tant qu'encadreur, en tant que promoteur, peut montrer, je pense, à mon point de vue, à son étudiant, à son encadré, quelle ligne il peut suivre, sans vouloir bien sûr imposer. Sans vouloir imposer. Il n'impose
d'accord.
pas, bien sûr, il oriente, il d'accord. oriente l'encadreur.
Merci Michel.
J'en parle parce que je suis souvent victime de pareilles tribulations avec les étudiants. Voilà.
Merci. Vous êtes enseignant?
Enseignant, oui.
D'accord. Alors, vous imposez souvent les sujets aux étudiants ou bien comment vous faites, comment vous procédez généralement?
Généralement, ce sont des recadrages. Ce sont des recadrages. Le sujet, le thème de recherche, l'étudiant vous le propose. Il vous dit, je vais travailler dans tel domaine, dans tel thème précisément.
Et vous le recadrez.
Vous pouvez juste recadrer le sujet sans vouloir l'imposer.
D'accord. Merci. Madame Otinei nous appelle de Gbadolité. Bonjour. Madame,
bonjour.
Quelle est votre question?
Ouais, ma question est celle-ci. La fois dernière, donc dès l'année passée, il y a des encadreurs là qui proposent des sujets aux étudiants. Et au lieu que les étudiants trouvent ça un peu banal, mais ces étudiants-là acceptent de choisir ces sujets.
Veuillez éteindre votre radio, vous allez suivre la partie du téléphone. Sinon, nous avons un retour à l'antenne et votre intervention sera entrecoupée. Allez-y.
Pardon?
Oui, allez-y rapidement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Veuillez éteindre la radio, vous allez suivre la partie de votre téléphone. Alors, quelle est la question que vous adressez à notre invité?
Je voulais juste poser la question à l'invité. Je ne sais pas s'il sera capable de m'expliquer. Je suis en jeu 3, j'ai déjà choisi le sujet et le directeur. Malheureusement, mon directeur est en voyage. Et que ferai-je maintenant?
Et c'est quoi le sujet?
Pardon?
C'est quoi votre sujet de recherche?
Mon sujet est basé sur le niveau de connaissances de la prise en charge des enfants malnutris.
D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec votre directeur avant qu'il ne parte en voyage?
Oui, c'est déjà. On a discuté juste une semaine et il est en voyage.
D'accord, merci. Merci l'abbé Marcus.
Bien, il y a eu beaucoup de plus de recommandations que de
des questions,
des questions en réalité.
Oui.
Mais bon, pour revenir à cette question de la relation, parce que c'est ce qui revient hein, oui. entre les professeurs et l'étudiant. Mmh. Ben, c'est une collaboration, comme je le disais tout à l'heure, qui est telle que. Le directeur ne devrait pas tout le temps imposer, mais il y a des moments où il doit le faire. Parce que on remarque parfois les entêtements de certains étudiants, mais dans le mal. Il croit bien faire, mais en réalité, il ne fait pas bien les choses. Et puis, du côté des étudiants, on devrait éviter des entêtements, quoi. Donc, comprendre les propositions que les professeurs sont en train de suggérer. Mais bon, de l'autre côté, mais si vraiment le prof va dans une direction qui ne lui permet pas de se comprendre, eh bien, ou bien il change de directeur pour aller rejoindre celui qui va comprendre davantage. Parce que quand ils arrivent, ils ont toute la possibilité de voir plusieurs directeurs, mais... quand ils viennent, donc ils cherchent lequel peut facilement aller accepter d'aller dans le même sens que lui, et peut-être ça va marcher. Parce que c'est que moi je refuse le même sujet. Si on me donne de diriger ce travail, eh bien je ne suis pas sûr que l'orientation que je vais prendre ce ne sera pas exactement. C'est lui que celle plutôt que prendra un autre professeur. Donc je crois que ça dépend de tout cela également.
Voilà. Et Emmanuel Bachal est étudiant en deuxième licence droit public à l'université de Kisangani. Nous dit ici, la participation aux séminaires qu'organisent les facultés sont parmi les meilleures circonstances où on peut trouver un sujet de mémoire ou des TFC. Les médias également. Et puis, on peut trouver également des sujets en suivant les médias. Et il nous dit que c'est grâce à l'émission Parole aux auditeurs qu'il a trouvé son sujet de mémoire. C'est ce que nous révèle Emmanuel Bachal, étudiant en deuxième licence droit public à l'université de Kisangani. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, bon, naturellement, pour trouver un sujet, il faut être ouvert à tout, à toutes les possibilités, et c'est sur base de ces différentes possibilités qu'en confrontant avec ce qu'on a étudié, parce que le travail de fin de cycle de mémoire doit porter sur une matière qu'on a étudiée, et je crois que, bon, c'est pas mal, hein, c'est important, c'est intéressant d'être ouvert comme ça.
Voilà. Maurice Ovoa Nyaku, il est étudiant en G3, droit à l'université du Sepromad à Arou. Il dit que ce n'est pas facile d'avoir un sujet des TFC ou mémoire de soi-même. La meilleure façon est de participer au séminaire organisé par l'établissement. C'est là où on peut trouver des sujets, des bons sujets. Voilà. Car ici, à Arou, il n'y a pas de bibliothèque pour faire des recherches dans certains domaines. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ben oui, c'est le problème de certaines institutions académiques. Je crois que c'est ce séminaire est organisé chez eux, justement parce qu'il y a notamment cette difficulté-là. Bon, mais il y a aussi beaucoup d'institutions qui organisent un séminaire pour ceux de G3 et des L2. Mais bon, c'est souvent des séminaires méthodologiques où on vous apprend justement comment choisir un sujet, comment conduire une recherche, plutôt que qui vous donne les sujets. Parce qu'on peut avoir... dans une faculté, plusieurs départements, on fait un séminaire pour tout le monde et les sujets qui sortiront de là ne seront pas nécessairement des sujets qui relèvent de la spécialité de tous les départements. J'allais plutôt ajouter quelque chose, la suite, hein, parce que après plutôt l'état de la recherche, ça ne suffit pas. L'état de la recherche vous permet simplement de savoir ce qu'il faut éviter, dans quelle direction il faut aller. Ce qu'il faut éviter parce que ça a déjà été bien traité avant. Et dans quelle direction il faut aller, donc là où on a moins travaillé et là où il y a des choses qui ont été mal faites.
Alors c'est là pour vous demander de lire les travaux antérieurs qui ont été produits avant.
Oui, même en diagonale. Hein, même en diagonale. Avant de choisir un sujet, avant de se préciser dans ce choix de sujet, parce que c'est un choix qui n'est pas seulement... Enfin, le problème.
Donc, en
c'est
diagonale,
que
vous lisez la problématique et puis vous allez à la
vous
conclusion.
Vous lisez les autres travaux, les parties importantes, hein, les introductions, l'introduction des chapitres, les conclusions des chapitres.
La problématique
générale. Bon, problématique, c'est une partie de l'introduction générale. Donc, l'introduction générale, et vous savez au moins ce que tel a étudié, etc. Et quand vous le savez, vous pouvez aller de l'avant. Mais j'allais insister beaucoup sur l'étape qui suit. C'est la problématique. Parce qu'en fait, au départ, on n'a pas encore le titre comme tel, on a le thème, on sait un peu qu'est-ce qu'on va essayer de traiter.
Oui.
Mais pour avoir le titre précis, il faut aller vers les binômes problématiques et puis l'hypothèse. Donc, il faut poser le problème.
C'est comme un étudiant qui a donné un exemple ici, il dit, on peut par exemple parler de la crise économique en République démocratique du Congo.
Ouais,
ça c'est vaste. Maintenant, il faut choisir un angle.
Oui.
Trouver un angle
il
précis.
Il faut savoir crise économique, mais vous prenez quel aspect, parce que ça peut prendre. Vous voulez voir qu'est-ce que vous voulez chercher, les causes ou quoi, etc. Donc, je disais qu'il faut aller vers l'élaboration de la problématique, bien présenter son problème. Et là, c'est aussi un aspect où on a parfois de la difficulté. Beaucoup d'étudiants pensent que la problématique, c'est une accumulation de questions. Mais c'est beaucoup plus une présentation claire du problème. Vous avez identifié un problème. Par exemple, pour être concret, un étudiant, s'il est philosophe, il lit un ouvrage d'un auteur, Austin, « Quand dire, c'est faire ». Alors, il trouve qu'il y a une bonne conception de la relation entre la parole ou la promesse et la réalisation, les actes. Mmh. Alors, donc, il veut promouvoir ce lien-là et cette pensée-là, et il commence à poser le problème. Pourquoi il a choisi cela? Parce que, justement, qu'est-ce qui l'a intéressé là-bas? C'est parce que c'est ce que, de l'autre côté, il a constaté que à Kinshasa, où il vivait, il y avait une opposition. Il y avait une opposition entre le dire et le faire. Il a pris la réalité de la promesse. Alors, puisqu'il veut étudier cette difficulté et utiliser cette pensée pour résoudre cette difficulté, parce qu'il pense que cette pensée résout cette difficulté, il commence sa problématique, par exemple, en disant, on sait que la promesse est une dette. Donc, quand vous promettez, vous devez réaliser. Donc, vous êtes sûr et vous êtes capable que vous allez réaliser ce que vous avez promis. C'est comme ça que vous promettez. Mais en réalité, quand on regarde dans ce qui se fait ici à Kinshasa, il constate que beaucoup de gens promettent, mais ne réalisent pas. Déjà, quand on promet, on n'a pas l'intention de réaliser ce que on a promis. Et donc, même la personne qui reçoit la promesse, elle n'est pas sûre que la promesse va être réalisée. Mmh. Il prend deux exemples. D'un côté, vous avez les réponses des gens qu'on réserve aux personnes qui viennent demander les dettes. On leur dit facilement, viens demain. Mais celui qui dit viens demain ou viens tel jour, sait que il n'est pas prêt, et donc juste il est en train de contourner
le
problème. Alors, la conséquence pour lui, la conséquence, c'est il y a une perte de crédit social, donc de confiance entre nous, et ça c'est une situation qui ne peut pas permettre aux gens de vivre très bien en société, et tout. Il finit avec la question, et c'est là que prend en place la question. Et c'est là l'importance de la question, en se demandant quel mécanisme mettre ou promouvoir pour faire que les promesses soient vraiment de réalités qui vont être réalisées, et que les personnes qui reçoivent les promesses soient capables d'identifier les vraies et les fausses promesses. Alors, il va dans le livre de l'auteur pour trouver des solutions. Donc, vous voyez que les questions font partie de la problématique, mais c'est juste à la fin, après avoir posé clairement le problème, montré clairement, parce que ce qui est problème pour vous ne l'est pas pour tout le monde, après avoir montré clairement à tout le monde quel est le problème et en quoi c'est un problème, on arrive juste
donc
à la
question.
Donc, quand
on arrive à établir la problématique, c'est à ce moment-là qu'on va préciser le sujet. Disons le titre. Il sera beaucoup plus précis à ce moment-là.
Quand vous posez le problème, le titre est donné. Le meilleur titre d'un travail est tiré de son hypothèse. Parce que l'hypothèse, c'est en fait, en quelque sorte, la thèse que ce travail-là est en train de montrer. En relation avec la problématique, c'est la réponse, ou ce sont les réponses réservées aux questions, à la question posée à la fin de la problématique. Donc le titre, il faut tirer cela directement de l'hypothèse, mais si l'hypothèse pose problème, on peut tirer aussi un titre, soit de l'objet du travail, ou bien de la problématique même.
Bien, professeur Marcus Mindongwa, enseignant de l'Université pédagogique nationale, merci et à la prochaine.
Je vous en prie.